Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Soy Felipe Restrepo. Muchas gracias a todos por venir hoy. Me piden que les pida el favor de apagar los celulares. Gracias. Y bueno, hoy tengo el enorme privilegio, la enorme suerte de estar presentando a una de las que yo considero estrellas ascendentes de la literatura francesa, a Laurent Binet. Laurent fue profesor muchísimos años y en los últimos se ha dedicado a la escritura. Ha publicado 4 libros, uno de ellos es HHHH, una novela por la cual recibió el prestigiosísimo premio Goncourt de literatura. Es una novela situada en la Segunda Guerra Mundial y que narra cómo fue uno de los sucesos más importantes de la guerra, que fue el atentado para asesinar a Reinhard Heydrich, uno de los líderes nazis más crueles, uno de los agentes nazis que ideó la solución final y que mandó a asesinar a miles y miles de personas. Laurent reconstruye esta historia, se centra en estos años, pero también al mismo tiempo hace una reflexión sobre qué significa escribir y qué significaba para él escribir esta novela. Un par de años después publicó otro libro que se llama Rien ne se passe comme prévu, que es un retrato de la campaña de 2012 que enfrentó a François Hollande y a Nicolas Sarkozy. No les voy a contar el final, pero les puedo adelantar que a Hollande le fue bastante bien al final del libro y Laurent reconstruye esta historia y se centra en la campaña, cómo fue la campaña, y hace para mí un ejercicio periodístico bien interesante. Vamos a hablar entonces de estos dos libros y de otros temas importantes en Francia hoy. Y vamos a hablar en francés, bueno, quiero decir, Laurent va a hablar en francés y yo voy a intentar balbucear algunas frases en su idioma. Y bueno, Laurent, bienvenido a Cartagena.
Merci.
On m'a dit que tu as beaucoup aimé la ville.
Ah bah oui, j'étais ébloui et pourtant tout le monde m'avait prévenu, mais que c'était vraiment, enfin bon, j'étais vraiment subjugué par les remparts, la vieille ville, la mer, tout quoi.
Bon, très bien. Et il y a plein de sujets que je voudrais parler avec toi aujourd'hui, mais surtout je voudrais commencer par HHH, ton roman qui est très bien connu ici en Colombie et en toute Amérique latine. Et je voudrais commencer par te demander comment tu es tombé sur ce sujet. Sur ce sujet. Pourquoi écrire sur Heydrich? Pourquoi écrire sur l'attentat? Et surtout, tu racontes, pour ceux qui n'ont pas lu ton livre, qu'il y a des relations personnelles, surtout la relation de ton père avec la Deuxième Guerre mondiale. Si tu peux nous raconter un peu comment ça s'est donné.
Oui, alors il y a plusieurs facteurs. Cette histoire-là, mon père me l'avait mentionnée quand j'étais petit parce que mon père est prof d'histoire. Et voilà, parce que la Deuxième Guerre mondiale, ça l'intéressait. Il m'en avait parlé, mais sans développer. Et il se trouve ensuite que c'est les hasards de l'existence qui ont fait que, à l'époque où le service militaire existait encore en France, j'ai été envoyé donner des cours de français en Slovaquie. Et donc, quand j'ai été envoyé là-bas, je me suis souvenu de cette histoire dont m'avait parlé mon père. Et donc, d'une certaine manière, par courtoisie, j'ai posé des questions. Je ne savais pas grand-chose sur ce pays, mais donc j'ai posé des questions sur cette histoire de résistants tchèques et slovaques qui avaient abattu le chef de la Gestapo. Et puis les premiers détails qu'on m'a donnés étaient extrêmement romanesques. Ils ont soulevé ma curiosité. Et donc, de fil en aiguille, au début, c'était purement de la curiosité, je voulais en savoir plus, j'avais pas l'idée d'en faire un livre. Et puis en fait, de détail en détail, je me suis rendu compte que c'était vraiment une histoire absolument incroyable. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut la raconter parce que en France et en Europe de l'Ouest, globalement, cette histoire-là n'était pas connue. Et le personnage d'Heydrich lui-même, qui avait pourtant été chef de la Gestapo, chef des services secrets du SD, des services secrets nazis, organisateur de la solution finale, était beaucoup moins connu, par exemple, que Eichmann, qui n'était en fait que son bras droit. Mais Eichmann avait été très connu à cause du procès de Jérusalem, parce qu'il avait survécu à la guerre, parce que Israël avait mis en scène son procès. Et donc, le point de départ, en fait, c'était l'attentat. Je voulais raconter l'acte héroïque des parachutistes. Et puis, en fait, en creusant, je me suis rendu compte que Heydrich, qui est mort en fait parce qu'il était gouverneur, en gros protecteur de Bohême-Moravie, en fait était beaucoup plus que le protecteur de Bohême-Moravie. Et donc, à l'arrivée, la moitié du livre, si on est honnête, concerne en fait la biographie d'Heydrich.
Et c'était quand même un des hommes les plus dangereux du nazisme, non ?
C'était le... En tout cas, c'était son surnom. Il avait beaucoup de surnoms, dont l'un de ses surnoms, c'était l'homme le plus dangereux du Troisième Reich. Les autres surnoms étant la bête blonde, Hitler, lui, l'avait appelé l'homme au cœur de fer. Enfin, bon, il y a toute une mythologie autour de ce personnage, Heydrich, parce que finalement, c'est l'un des seuls chefs nazis qui ressemblait à l'image que les nazis avaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire grand, blond, cultivé, musicien, sportif, etc. Alors que si on réfléchit, Hitler, Himmler, Goebbels, c'était des petits, pas très bien foutus, bruns. Voilà, donc Heydrich, c'était l'emblème du super nazi, en fait.
Enfin, il avait du sang juif, non ?
Ça c'est une rumeur. Une rumeur extrêmement romanesque aussi, c'est très romanesque le fait que l'organisateur de la solution finale, celui qui a planifié l'exécution de millions et de millions de juifs, avait été soupçonné d'être juif. Alors évidemment, ça aurait été encore plus romanesque s'il l'avait été, et c'est pour ça qu'on a envie de croire qu'il avait été juif. Il avait été soupçonné, son père avait été soupçonné d'être juif, en l'état actuel des connaissances des historiens. On n'a pas pu le prouver, mais il a été toute sa vie, depuis tout petit jusqu'à très tard, il a été poursuivi par cette rumeur, tout petit dans la cour d'école, et ensuite pendant son ascension, disons par ses rivaux, à tel point qu'en fait Hitler et Himmler eux-mêmes n'étaient pas sûrs qu'ils soient d'origine juive ou pas. Et en fait, il s'était arrangé avec cette idée. Hitler avait dit à Himmler, bon, s'il a du sang juif, ça prouve, donc avec cette rhétorique propre aux fous ou aux complotistes, hein, s'il a du sang juif, ça prouve la supériorité de la race allemande, parce que ça prouve que sa part germanique a pris le dessus sur sa part juive.
Il était le nazi parfait, non ? Parce qu'il ne se demandait même pas ce qu'il faisait. C'était son travail, et il le faisait d'une manière parfaite.
Alors, voilà, c'est intéressant de voir qu'en fait, le nazi parfait, en fait, c'est un fonctionnaire. En fait, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit. Ouais.
Au fur et à mesure que tu faisais ton enquête, tu as trouvé des choses qui te sont surpris particulièrement, pas seulement sur Heydrich, mais sur ce qui a fait la Gestapo, la solution finale. Que tu ne savais pas que tu as décidé de faire le livre à cause de ça ?
Non, j'aurais fait le livre de toute façon, mais surpris, oui et non. Disons que le génocide d'ensemble, l'Holocauste, la Shoah, c'est, en France, c'est très bien enseigné. Donc, j'ai pas eu de surprise, mais si tu veux, dans les détails. Par exemple, je connaissais très mal ce qu'on connaît mieux en France, notamment grâce aux bienveillants de Jonathan Little, ce qu'on a appelé la Shoah par balle, ces massacres en Ukraine avant l'ouverture des chambres à gaz, ces massacres à la mitrailleuse où on alignait des centaines et des milliers de juifs ukrainiens, on leur faisait creuser des tranchées et on les abattait à la mitrailleuse, ou même le recours aux camions à gaz. En fait, ce qui est horrible et fascinant dans le processus d'extermination des Juifs, c'est cette lente industrialisation du processus. D'abord, c'est très artisanal, et c'est à la mitrailleuse, mais ces massacres à la mitrailleuse, c'est quand même 1,5 million de Juifs qui se font, ou de Tziganes, qui se font éliminer. Et en fait, ce qui est aussi terrifiant, c'est que on arrête avec cette méthode pour préserver la santé mentale des bourreaux, parce que même pour les nazis qui exécutaient les juifs, c'était tellement horrible que c'était trop éprouvant. Et donc on cherche des systèmes moins éprouvants, non pas pour les victimes, mais pour les bourreaux. Et on trouve d'abord les camions à gaz. Donc ça reste encore un petit peu artisanal. On met les juifs dans les camions et on retourne le pot d'échappement à l'intérieur pour les asphyxier. Et puis ensuite, donc c'est ce que Heydrich décide à la conférence de Wannsee en janvier 1942. Là, on décide d'industrialiser le processus et d'ouvrir les chambres à gaz à Auschwitz et dans Sobibor, Treblinka, les camps d'extermination. Et ce processus-là, donc, qui est initié par Heydrich, Heydrich ne le verra pas. Ne le verra pas commencer puisqu'il est, il meurt en mai 42 et le processus commence en juillet 42, mais en hommage à Heydrich, l'ouverture des camps d'extermination, pas simplement des camps de concentration mais des camps d'extermination proprement dites, s'appellera l'opération Reinhardt en hommage à Reinhardt Heydrich.
Oui. Bien sûr, le nazisme et la Deuxième Guerre mondiale, c'est un des sujets les plus traités dans l'histoire de la fiction, du cinéma, de la littérature. Pourquoi tu as pensé à faire ce roman particulièrement sur ça, en savant qu'il y avait beaucoup de documents, que c'était un processus tellement documenté? Qu'est-ce que tu pensais que tu pouvais dire en plus ou dire d'une façon différente?
Alors, disons le Si tu veux, moi, la Deuxième Guerre mondiale est un sujet qui m'a intéressé comme tout le monde, si tu veux, parce que c'est un sujet passionnant. Et pendant 1500 ans, pendant même 2000 ans, on a écrit sur la guerre de Troie. C'est-à-dire chaque auteur qui écrivait sur la guerre de Troie se disait pas, on en a déjà parlé, je laisse tomber. Il y a des périodes. Il y a des sujets qui nourrissent particulièrement l'imaginaire. Je pense que la Deuxième Guerre mondiale, c'est un sujet inépuisable parce que, je suis convaincu, c'est pas très original de dire ça, mais que jamais dans l'humanité, en si peu d'années, s'est concentré autant d'événements tragiques, héroïques, horribles et à la fois, des histoires des histoires atroces d'assassinats et puis des histoires de résistants absolument magnifiques. En quelques années, on a tout ce que l'humanité est capable de faire de pire et de meilleur, si tu veux. Donc voilà. Et moi, je tombe là sur cette histoire spécifique qui est... Ce qui me plaisait particulièrement dans cette histoire, c'est que justement, c'est quand même une des seules fois dans la Deuxième Guerre mondiale... Enfin, une des seules fois, disons... en tout cas, c'est la seule fois qu'un dignitaire nazi de cette importance se fait assassiner de toute la Deuxième Guerre mondiale. Hitler, il a subi je ne sais plus combien de tentatives d'attentats, d'assassinats. Je ne sais plus si c'est 19 ou 27, mais c'est un nombre colossal. En France, Laval a échappé à une tentative d'assassinat. Donc des tentatives, il y en a eu. Mais celle-là, elle a réussi. Et donc, bon, c'est vrai qu'elle avait quelque chose de... Elle a réussi. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je ne dis pas ce qui arrive aux parachutistes. Mais enfin, bon, ça a été compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire là, la bête immonde, comme on dit en France, là, bon, ils l'ont eu. Et c'est vrai que ça avait quelque chose d'un petit peu... cathartique, si tu veux, quoi.
Tout à l'heure, on parlait sur un fait qui est pour moi très compliqué à comprendre ou qui m'intrigue spécialement, et c'est le fait que, en ce moment précis de l'histoire, on a eu tellement de psychopathes qui se sont regroupés et ont fait un parti et ont gouverné un parti et ont même presque conquis l'Europe. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une situation particulière de l'histoire en ce moment qui a permis à ces psychopathes d'avoir tellement de pouvoir? Est-ce que tu penses que ça pourrait revenir d'une certaine façon?
Oui, c'est-à-dire ça peut toujours revenir parce que, on voit jour après jour, tout ce temps qu'on est, à quel point on a du mal à tirer les leçons de l'histoire. Et pourtant, voilà, on a beau en parler, on a beau le savoir. Enfin, le simple fait qu'il y ait des partis d'extrême droite qui soient à plus de 20% en Europe, qui soient même parfois aux portes du pouvoir, mais même parfois au pouvoir, en Hongrie, ils sont au pouvoir. Ou que des partis authentiquement, explicitement revendiqués comme néo-nazis, comme en Grèce, puisse rassembler des centaines de milliers, voire des millions de votes, prouve qu'on n'arrive pas à tirer les leçons de l'histoire. Et en France, spécialement, il se passe quelque chose d'assez intéressant politiquement. Pour ceux qui suivent la vie politique et culturelle française, il y a un journaliste français qui a beaucoup d'audience, qui s'appelle Éric Zemmour, qui en plus est juif, mais qui est un juif d'extrême droite, si tu veux, et qui propose que, voilà, en plus, il fantasme sur les chiffres, mais enfin, disons qu'il décide qu'il y a 3 millions de musulmans en France, que ces musulmans ne peuvent pas s'intégrer et qu'il faut les mettre sur des bateaux pour les expulser. Bon, le nazisme, au départ, il voulait expulser les juifs aussi, il ne voulait pas les exterminer. Bon, et alors, comment est-ce qu'il arrive? Donc, il a une audience énorme en France. Et comment est-ce qu'il arrive à réhabiliter cette pensée d'extrême droite? Là, dernièrement, il a dit, bon, en fait, Pétain n'a pas collaboré, enfin, il a collaboré avec les Allemands, bien sûr, personne ne peut dire le contraire. Pétain, le chef du gouvernement français, pendant que l'Allemagne avait occupé la France pendant la guerre. Mais en fait, Pétain n'a collaboré avec les Allemands que pour mieux sauver des Juifs. Parce qu'en fait, il a négocié avec les Allemands qu'il n'y ait que les Juifs étrangers qui soient déportés pour pouvoir sauver les Juifs français. Et donc, avec cette espèce de rhétorique, il parvient à réhabiliter une figure qui était complètement discréditée en France, la figure de Pétain qui incarnait l'extrême droite et qui, jusqu'à maintenant, empêchait que l'extrême droite, empêchait que le parti de Marine Le Pen soit un parti comme tous les autres. Mais si, parce que, voilà, en France, on a le héros national de Gaulle et le méchant collabo Pétain. Mais si on arrive, Pétain donc qui incarne l'extrême droite, mais si on arrive à réhabiliter Pétain, du coup, le dernier verrou qui empêche Marine Le Pen et le parti d'extrême droite en France, le FN, d'aller plus loin que déjà les 20 ou les 25% à la hauteur de laquelle il est, ben le dernier verrou saute en fait. Donc il y a une espèce de tentative de réhabilitation qui est une forme de révisionnisme de l'histoire qui fait que, bah oui, manifestement, contrairement à un proverbe, je ne sais pas si c'est un proverbe français, l'histoire ne repasse pas les plats. En fait, si, l'histoire peut repasser les plats, ouais.
Oui, on reviendra tout à l'heure sur la politique actuelle française, mais je voudrais revenir sur Heydrich, parce que quand je lisais ton roman, je pensais à Hannah Arendt et le terme de la banalité du mal qu'elle a dit à propos de Eichmann. Mais je pense que Heydrich, c'est aussi la personnification de cette banalité du mal, de cette capacité d'assassiner, de tuer sans aucun remords. Sans une question moraliste. Tu penses que Heydrich, c'est aussi la personnification de la banalité du mal?
Oui et non, en fait. Je pense que Eichmann incarne mieux cette banalité, parce que Eichmann était vraiment un petit fonctionnaire médiocre, dénué de talent, à part le talent d'organisateur, un talent bureaucratique, si tu veux. On disait, voilà, Eichmann, c'est celui qui faisait arriver les trains à l'heure. Heydrich, bon, c'est une personnalité quand même très romanesque, qui était manifestement très doué dans tous les domaines, puisque c'était un fils de musicien, apparemment bon musicien lui-même, un sportif accompli qui faisait du cheval, qui était très bon en escrime, qui était sélectionné dans l'équipe nationale d'escrime, bon, qui était pilote de chasse aussi. Donc c'était quand même quelqu'un d'hors du commun. Et Heydrich a quelque chose quand même d'extraordinaire. Mais ceci dit, extraordinaire, ça ne veut pas dire que ça reste pas un homme. Et c'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est que ces gens-là, quand même, étaient des hommes, n'étaient pas des monstres. Parce que si on dit c'est des monstres, ils étaient, voilà, c'était des hommes extrêmement malfaisants, maléfiques et tout ce qu'on veut, et qui ont un comportement absolument répugnant. Mais si on dit c'est des monstres, alors on n'a plus tellement à se poser de questions. Enfin, si on les extrait de la nature humaine, on en fait une espèce d'anomalie qui empêche de penser le problème en termes socio-historiques, si vous voulez. Non, c'était des hommes qui étaient le produit d'une époque. Et ça, c'est important de garder ça en tête. Si on en fait des monstres, on en fait quelque chose d'un peu mythologique, wagnérien, des espèces de dragons maléfiques. Et on peut pas comprendre le nazisme. Je dis pas que je comprends le nazisme, oui. Mais
c'est exactement ce que j'allais te demander, parce que quand on écrit ou quand on lit sur le nazisme ou quand on voit des films, c'est très facile de tomber sur les stéréotypes. Ce sont des monstres horribles qu'on peut pas expliquer. Mais toi, tu essayes de faire le côté humain, au moins de Heydrich. Et je trouve que c'est dangereux aussi de le faire, parce qu'on peut lire d'une autre façon ce côté humain.
Oui, alors, bon, peut-être, mais disons, enfin, moi, j'ai jamais ressenti de sympathie pour Heydrich. Je sais pas si, je sais pas si on peut ressentir de la sympathie en lisant mon livre. Mais en tout cas, moi j'ai voulu, tout l'enjeu de mon livre est là, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie, comment est-ce que on raconte autant, enfin j'ai voulu raconter autant que je pouvais, de rendre compte de cette histoire et de qui était Heydrich. Et donc toutes les informations sur Heydrich, je les ai données. Quand je lisais des témoignages qui racontaient comment il jouait avec ses enfants dans le jardin, je les ai racontés. Moi, ce que je trouve d'autant plus glaçant, c'est que ce témoignage-là pouvait succéder, enfin, le moment où il joue dans le jardin avec ses enfants pouvait succéder à une décision la veille où il visitait un camp de concentration, il assistait à des exécutions de juifs. Donc, je pense pas que ça le rende spécialement plus sympathique. Ça rend, moi, je pense, encore plus effrayant. Mais en tout cas, je me souviens peut-être, vous vous souvenez de ce film qui s'appelait La Chute. Der Untergang,
sur les derniers jours.
Sur les derniers jours d'Hitler dans son bunker. Et je sais que ce film, qui était une reconstitution très fidèle, autant que je sache, des derniers jours d'Hitler dans son bunker, avait été critiqué parce qu'il y avait des scènes où on montrait Hitler aimable avec ses secrétaires ou caressant son chien. Il avait un berger allemand qu'il adorait, etc. Mais c'est un fait, c'est prouvé historiquement que Hitler était plutôt aimable avec ses secrétaires et aimait bien les bêtes. Il était végétarien aussi, par exemple. Bon, est-ce que il faudrait cacher ? Non, il faut pas cacher. Ça fait partie du personnage. On peut être végétarien, aimer les chiens et exterminer 6 millions de juifs.
Et ça fait le personnage encore plus intéressant de trouver tout ce côté.
Ouais. Ça fait d'autant plus réfléchir, je trouve.
Mais après avoir lu tellement, écrit tellement sur Heydrich, c'est ça ton explication psychologique, que c'était un bon Allemand qui faisait bien son boulot et qui arrivait tout... C'est seulement ça ?
Non, j'ai pas d'explication psychologique parce que je me méfie, en fait, de la psychologie. Je pense que... Enfin, c'est pas que je me méfie de la psychologie. La psychologie fournit des éléments intéressants, mais je trouve que... on a tendance à trop en abuser, si tu veux. Je pense aussi... Disons, en tant qu'écrivain, que prof de littérature, je pense que la littérature française a trop abusé les romans français ont trop abusé de littérature psychologique, si tu veux. Je pense que la littérature psychologique s'est développée de façon incroyablement riche en France au XIXe siècle, jusqu'à ce point d'apogée qui est Proust, je pense. Et je pense qu'après Proust, on aurait dû passer à autre chose. Et je déplore qu'aujourd'hui, 80% de la production littéraire française, ce soit de la littérature psychologique. Donc je me méfie un petit peu de la psychologie. Et je me méfie aussi d'un livre comme Les Bienveillantes de Jonathan Little, qui cherche à comprendre les racines du mal à partir justement de mécanismes qui me semblent douteux quand même, parce que je pense que en général les considérations psychologiques à l'œuvre dans cette compréhension, dans ces tentatives de compréhension du nazisme qu'on a, sont surtout des projections de nous-mêmes, de notre propre psychologie. Ce que je reprocherais à Jonathan Little, c'est d'avoir surtout parlé de ses fantasmes à lui et de son idée un petit peu fantasmatique du nazisme que lui, il a, qui, à mon avis, est très éloigné de la psychologie des nazis de l'époque. Alors, peut-être qu'un travail sérieux pourrait comprendre la psychologie des nazis, mais moi, en fait, je ne m'en sentais pas capable. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai voulu décrire les faits, mais pas me mettre dans la tête du personnage, en fait. Ouais. Le lecteur peut le faire s'il veut, peut essayer de le faire avec les éléments que je lui donne, mais moi, j'ai pas voulu le faire à sa place et j'ai pas voulu penser à la place d'Heydrich. C'est pour ça que, par exemple, j'ai toujours refusé de recourir à un procédé qui est un procédé très efficace, mais à mon avis aussi très tendancieux, un procédé littéraire qui s'appelle le monologue intérieur, hein, se mettre dans la tête du personnage, ou simplement dire « je » à la place d'Heydrich.
Mais je pense que tu connaissais ton personnage suffisamment bien pour faire un monologue intérieur. Mais bon, c'est une décision d'écriture.
Pour moi, c'est un scrupule, si tu veux. C'est un scrupule. Littérairement, ça aurait été très efficace, je pense, et il y en a qui l'ont fait avec beaucoup de brio, mais... au niveau de la vérité historique, j'aurais considéré que c'était une forme de manipulation, si tu veux.
Ouais. Il y a une autre chose qui m'intéresse beaucoup sur son roman, et c'est que tu fais, pendant que tu racontes l'histoire d'Heydrich, tu fais des commentaires, des petits monologues sur la difficulté d'écrire un roman comme ça, et sur la difficulté de revenir sur l'histoire. Pourquoi tu as décidé de nous raconter comment c'était l'écriture de ton roman pendant qu'on lit ton roman, et comment tu es arrivé à faire à raconter l'histoire d'une manière véridique?
Justement, parce qu'en fait, très vite, j'ai compris que je voulais pas utiliser cette histoire pour faire une bonne histoire, si vous voulez, en français, c'est le même terme, hein, l'histoire avec un grand H, l'histoire de France, l'histoire de l'Amérique du Sud, enfin bref, l'histoire avec un grand H, et puis une histoire, la fable, le scénario que un écrivain ou un romancier, un conteur peut raconter. Et en fait, moi, je voulais pas instrumentaliser l'histoire pour juste faire un bon roman. J'avais envie de connaître. Enfin, pour moi, il y a une différence quand on me raconte une histoire. Il y a une différence si je sais que c'est une histoire vraie. Il y a des histoires. J'adore la fiction. Il y a des histoires fictives que je trouve formidables et qui m'ont vraiment influencé durablement. Mais je reçois pas l'information de la même façon si on me dit telle personne en a tué une autre. Si je sais que c'est juste un scénario de film ou si c'est vrai. Et donc voilà, moi j'étais fasciné par le fait que cette histoire extrêmement romanesque n'était pas un roman, n'était pas une fiction, mais était vrai. Et donc, je voulais insister là-dessus, et en même temps, je me suis rendu compte que trouver son chemin dans la forêt d'indices, de témoignages, etc., pour essayer de se rapprocher de la vérité, c'était très compliqué. Donc, en fait, la problématique de mon livre, très vite, c'est devenu comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie. Et comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie, c'est vraiment très compliqué. Et donc, parfois, j'étais confronté à des témoignages contradictoires, des versions qui collaient pas, etc. Et en fait, pour sensibiliser mon lecteur à ce qui, moi, m'importait, cette question-là de l'histoire vraie, j'ai voulu, d'une certaine manière, dialoguer avec lui, le faire participer à l'histoire et lui dire attention, là je raconte une version mais je suis pas tout à fait sûr, ou parfois, et là c'était une forme de manipulation, mais une manipulation pour la bonne cause, si tu veux, c'était que parfois j'avais une version, je la raconte, et puis en fait je me rends compte que cet épisode là il est faux, et donc au lieu de supprimer le chapitre et de le réécrire, en fait je l'ai laissé, et dans le chapitre suivant, dans mon dialogue avec le lecteur, j'ai choisi de dire, je me suis trompé, etc. Et le but de ça, c'était, entre autres, de faire au lecteur une lecture active. C'est-à-dire que le lecteur ne soit pas dans cette passivité qui consiste à dire, on m'a dit ça, c'est vrai, ok, etc. Mais soit tout le temps sur le qui-vive, en train lui-même, de se dire, mais ça, c'est bizarre, mais alors quelle... c'est-à-dire participe, d'une certaine manière, à la construction de cette véracité historique qui est inatteignable. Je sais bien, on n'est jamais tout à fait sûr d'un fait historique. Enfin, ça dépend lequel, si vous voulez. Mais dans les détails, c'est très compliqué. Voilà, et c'est ça que symbolisait cette espèce de névrose là que j'avais sur la couleur de la Mercedes. Est-ce qu'elle est verte? Est-ce qu'elle est noire? Et bon, évidemment que c'est un détail qui n'a pas tellement d'importance, mais pour moi, c'était le symbole de ce dont je suis en train de vous parler. Là, cet attachement vraiment à essayer de trouver la vérité historique.
et en même temps
véracité. Je préfère véracité. C'est une subtilité en français.
C'est hein, le véracité, mot sur le
vérité tout de suite. Il y a une connotation un peu métaphysique que j'aime pas. Véracité, c'est bon. Voilà, juste essayer de rendre compte le plus fidèlement possible d'un événement qui s'est produit.
Et que le récit fonctionne comme un récit.
Voilà.
Logique.
Et alors donc, voilà, c'est ça. L'ambition littéraire, si tu veux, c'était de raconter une histoire vraie comme un roman.
Et toi-même, tu deviens un personnage du roman. Et ça me rappelait beaucoup à Emmanuel Carrère, hein, ce qu'il fait. Lui, ou au moins son narrateur, devient un personnage très important. Et on ne peut pas comprendre l'histoire du roman sans ce narrateur qui se demande toujours s'il raconte quelque chose de vrai ou de véracité.
Alors, je ne sais pas si on peut ou pas comprendre, mais enfin, c'est vrai que Emmanuel Carrière, ses livres fonctionnent à peu près. Tous ceux que j'ai lus fonctionnent selon ce dispositif, hein, c'est-à-dire la présence de l'auteur, le narrateur qui est l'auteur, hein, pour moi, enfin, en tout cas dans mon livre, auteur et narrateur, c'est le même, je pense que chez Emmanuel Carrère aussi. Et puis, on en parlait tout à l'heure, Javier Cercas, il a fait ça aussi dans Anatomie d'un instant. Ouais. Enfin, bon, c'est-à-dire des livres dont, une part non négligeable du livre constitue l'enquête qui permet au livre d'exister. Bon, c'est une sorte de qu'on peut appeler un méta-roman ou une espèce de mise en abîme. Enfin, je sais pas exactement comment dire ça. Ceci dit, non, je pense que, enfin, il y a d'autres façons de raconter cette histoire. Et par exemple, donc, je suis en pourparler depuis assez longtemps pour une adaptation au cinéma de HHHH. Et les producteurs, eux, très vite, ils veulent que ce soit un film hollywoodien. Ils ont décidé que tout ce dont on est en train de parler là depuis une demi-heure, ils s'en foutent. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est une bonne grosse histoire hollywoodienne qui existe, hein, l'attentat contre Heydrich. Oui. Voilà. Et donc, bon, on verra ce que ça donne, hein, si ça voit le jour. Ça peut fonctionner. C'est une autre démarche. C'est-à-dire, ma démarche n'est pas une démarche totale. Enfin, à mon avis. Comment dire, c'est pas une démarche nécessaire pour prendre connaissance de cette histoire, mais c'est juste que ça me permettait, moi, de soulever des problèmes qui m'intéressaient, qui sont les problèmes du rapport entre réalité et fiction, réalité et roman, histoire et littérature.
Oui, et c'est ça. Et tu as bien sûr une situation parfaite romanesque parce que tu as Heydrich, le anti-héros, et tu as les autres parachutistes qui sont les héros. Tu dis, dans un moment, que tu as écrit ce livre pour leur faire comprendre l'importance de ce qu'ils avaient fait. J'ai beaucoup aimé ce commentaire et je voulais te demander comment comprendre ce commentaire que tu as fait.
Oui, c'est parce que, enfin, après l'attentat contre Heydrich, les représailles ont été atroces, comme les nazis en avaient l'habitude, pour montrer qui étaient les maîtres. Ils ont arrêté, déporté, exécuté des centaines et des milliers de personnes. Ils ont rasé un village dont ils pensaient, le village de Lidice, dont ils pensaient que le village, les terroristes étaient cachés dans les terroristes, les résistants s'étaient cachés dans ce village. Donc ils ont fait régner une terreur sans nom. Et pendant ce temps, les résistants, eux, étaient cachés dans une église du centre de Prague. Et on venait leur rapporter les atrocités des nazis, et ils se sentaient responsables. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on a fait à cause de nous? Il y a des gens qui meurent. Et donc ils se demandaient si ça avait servi à quelque chose, et ils pensaient qu'ils n'auraient pas dû, en fait, tuer Heydrich. Et donc voilà. Et donc à un moment j'écris ce livre pour montrer qu'ils se trompent, parce que en effet, bon, je pense pour des tas de raisons qu'ils ont eu raison, même si, évidemment, la mort d'Heydrich n'a pas changé le cours de la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas changé le destin des Juifs, n'a pas empêché le génocide des Juifs, mais pour des tas de raisons, c'était un acte quand même très important. Et donc, pour la raison que je vous ai dite, qu'à l'époque, enfin, durant toute la guerre, aucun dignitaire de cette importance ne s'est fait assassiner, et surtout, l'attentat a lieu en mai 42. En mai 42, on peut considérer que le Troisième Reich est invincible, en fait. Il a pas connu la défaite. L'Angleterre résiste, mais ne fait que résister. Il avance à l'est. Il est en train de conquérir la Russie. Et donc voilà. Là, c'est quand même le symbole. Là, l'assassinat contre Heydrich, c'est le symbole que non, le Troisième Reich n'est pas invincible. Et bon, on sait bien. Alors évidemment, c'est un homme qui meurt contre des milliers qui meurent en représailles, mais c'est terrible à dire, mais pour ce que symbolise Heydrich, sa mort vaut plus que la mort d'un homme. Et, enfin, elle vaut ce que vaut un symbole, et les symboles, on sait très bien que c'est très important.
Mais alors, c'est un meurtre qui se justifie ?
Ah bah oui, dans la, oui, enfin là, oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, disons, enfin, tuer un nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin, disons ensuite, enfin, oui, je pense que là, enfin, ça peut se discuter, mais je crois que c'est bon, il y, y a un relatif consensus là-dessus.
Ouais. il faut discuter.
Oui, enfin, bon, oui.
Et je sais que qu'un de tes auteurs favoris, c'est l'Américain Bret Easton Ellis, que j'aime aussi beaucoup. Et je, pendant que je lisais HHH, je trouvais beaucoup de points en commun avec son roman American Psycho. American Psycho. Est-ce que tu trouves qu'il y a des ressemblances entre Heydrich et Patrick Bateman, le personnage
non,
principal?
Non, alors bon, je suis très flatté de cette comparaison, vraiment, mais non, moi je dirais pas ça quand même. Enfin, disons, on en discutait tout à l'heure. La différence, c'est que Patrick Bateman, bon, c'est un psychopathe, comme son nom l'indique, American Psycho. Et donc, pour lui, le meurtre est un hobby. Un hobby, ou disons, répond à une pulsion. Heydrich, mais c'est peut-être encore plus effrayant, et comme beaucoup de. Enfin, Heydrich, c'est un exécutant, c'est un métier. Dans le cas de Patrick Bateman, c'est un hobby. Dans le cas d'Heydrich, c'est un travail. Et donc lui, bah, il exécute les ordres, il a envie de réussir dans la vie, et réussir dans la vie, disons, le nazisme, c'est un mélange compliqué de cynisme et de fanatisme. Je crois que, bon, il y a les deux aspects, mais il y a les deux aspects, enfin, notamment bon, chez Hitler, chez Goebbels, par exemple, mais je crois que, par exemple, chez Goebbels, la part de fanatisme est supérieure à la part de cynisme. Goebbels, c'était vraiment, vraiment, il croyait, et d'ailleurs, bon, ben voilà, c'est sa femme qui ne veut pas que ses 6 enfants survivent au Troisième Reich, qui empoisonne ses propres enfants, parce qu'un monde sans Troisième Reich n'a aucun sens pour elle. Je pense qu'Heydrich, bah, par exemple, quelqu'un comme Bormann, lui, il essaie de s'en tirer à la fin du Troisième Reich, où il y a des nazis qui ont essayé de fuir. Il y en a qui se sont suicidés, d'autres qui ont essayé de fuir. Bon, donc la question s'est pas posée pour Heydrich, mais je pense que la part de cynisme chez Heydrich est très grande, et je pense que Heydrich, voilà, c'était un carriériste dénué de tout scrupule. Je pense qu'il y avait une adhésion quand même au Troisième Reich. Je crois qu'il y croyait à cette supériorité de la race allemande, mais je pense que c'était avant tout un carriériste, quoi, qui était prêt à tout. Pour réussir. Et à une autre époque, il aurait une carrière d'arriviste normale, si j'ose dire, mais ce mélange de cynisme dénué de toute considération morale, et puis bon, alors si, il y a quand même un point commun avec un psychopathe ou un serial killer, c'est cette absence d'empathie, quand même, absence d'empathie pour les victimes. Mais même là encore, c'est compliqué, parce que Himmler lui-même, qui était le chef d'Heydrich, quand on l'amène quand il va inspecter une exécution des Einsatzgruppen de la Shoah par balle dont je vous parlais tout à l'heure, donc des centaines de juifs alignés devant des tranchées nues qu'on exécute à la mitrailleuse, il s'évanouit en fait, il ne supporte pas le spectacle. Donc c'est là qu'on voit que c'est des personnages horribles, mais c'est pas des machines. Et c'est justement parce que il trouve que ce spectacle est trop dur qu'il va inventer Auschwitz. Enfin bon, voilà, c'est évidemment des trucs de il y a quelque chose de l'ordre du dérangement mental, mais c'est trop simple de dire c'est des fous. Enfin c'est bon, Hitler était fou, je pense, mais Himmler aussi probablement. Heydrich était, je crois pas qu'Heydrich était fou. Heydrich était c'était autre chose, quoi.
Tout à l'heure, tu parlais de ce film, La Chute, mais aussi, quand Bret Easton Ellis a publié American Psycho, il a été accusé de faire une apologie du mal.
Oui,
est-ce que tu as eu la peur d'être accusé de faire une apologie du mal quand tu écrivais sur Heydrich, d'une façon humaine, pour l'appeler d'une certaine façon ?
Disons que j'avais pas envie qu'on pense que j'étais fasciné par Heydrich. Bon, parce que c'était pas le cas, mais ceci dit, on a le droit d'être fasciné par le mal, La littérature, d'une manière générale, est très attirée par le mal. Et le mal a donné des grands chefs-d'œuvre de la littérature. Les Fleurs du Mal, c'est le plus grand poème, le plus grand recueil de poèmes français. Richard III, des figures de Richard III chez Shakespeare, chez Byron, le romantisme, etc., etc. Littérairement, si tu veux, voilà. C'est-à-dire, Heydrich, moi, c'est vrai qu'Heydrich me fascinait, mais pas en tant qu'homme, mais en tant que personnage littéraire, d'un point de vue littéraire. La carrière d'Heydrich, je trouvais ça en effet fascinant, extrêmement romanesque. Est-ce que j'avais peur? Oui, sans doute un peu. Ça n'a pas été le cas, mais sans doute un peu, parce que quand même, à un moment dans mon livre, je distille quelques éléments biographiques, et j'ai pas été très fier de ça, mais à un moment, j'ai glissé dans le livre que j'étais fils de communiste et d'origine par mon père, et d'origine juive par ma mère. Ce qui est pas un procédé un procédé de rhétorique très fier, mais d'une certaine manière c'est pas un procédé rhétorique dont j'étais très fier, mais d'une certaine manière j'ai glissé ça pour pouvoir un peu me protéger de ce type d'accusation qui n'a pas eu lieu, finalement.
Disais parce que il y a une énorme susceptibilité sur tout ce qui se publie sur la Deuxième Guerre mondiale, sur
bien sûr, et notamment une énorme...
Sur le nazisme.
Notamment une énorme... Enfin, par exemple, j'avais peur de la réaction de quelqu'un qui fait autorité en France et dans le monde entier, même, sur la Shoah, qui a fait le film Shoah, qui a eu un retentissement énorme, qui a fait prendre conscience au monde entier de ce que c'était vraiment que la Shoah. Et il se trouve qu'à mon grand soulagement, il a aimé mon livre. C'était très drôle, le jour où il m'a téléphoné, je réponds au téléphone et j'entends une voix grave qui dit « Laurent Binet ». Je dis « Oui ». Et puis silence, et puis « Ouais ». Et là, instinctivement, je me suis dit « Bon, ça, soit c'est un malade, soit c'est Lanzmann ». Et donc c'était Lanzmann qui me dit « J'ai lu HHHH, que j'ai beaucoup aimé ». Et donc là, soulagement. Et donc maintenant on est devenus amis, on s'entend très bien. Je pense qu'il a aimé mon livre parce qu'il a trouvé ça honnête, justement cette démarche de recherche de la vérité historique. Mais je ne saurais jamais si le fait que je sois d'origine juive et qu'il le sache a pas un petit peu influencé son jugement d'une manière favorable. Voilà. Et influencé, alors que ça n'aurait pas dû. Mais je ne sais pas, j'ai pas la réponse.
Easton Ellis, en fait, lui aussi, il a beaucoup aimé ton roman, non?
Ça, c'est autre chose. Mais oui, là, c'était ma plus grande fierté d'écrivain, c'est que mon écrivain français, mon écrivain vivant préféré, aimer mon livre, ça c'était une grande satisfaction. Bon, mais c'est autre chose que c'est pour Lanzmann. Mais par ailleurs, on est accusé, Bret Easton Ellis, d'avoir fait l'apologie de la torture moi je me sens vraiment profondément féministe, si tu veux, et je pense que la cause des femmes, c'est peut-être la cause numéro un à l'heure actuelle dans le monde. On ait pu accuser Bret Easton Ellis d'être misogyne parce qu'il imaginait un personnage de serial killer qui torturait des femmes, je trouve ça grotesque. C'est le principe même du roman, du romancier et de la fiction, qu'il n'y a pas forcément évidemment adhésion entre l'auteur et ses personnages. C'est aussi le procès qu'on a fait à Houellebecq, que j'aime pas trop, que j'aime pas pour d'autres raisons. Mais disons, reprocher à Houellebecq ce qu'il fait dire à ses personnages, même s'il faut reconnaître quand même qu'il y a des personnages qui lui ressemblent beaucoup, c'est pas possible. C'est pas possible de faire le procès d'un auteur à cause de ce qu'il fait dire à ses personnages.
Oui. Tu me disais tout à l'heure que tu préférais certainement les écrivains, actuellement les écrivains américains, que les écrivains français. Et pourquoi ?
Pour une question littéraire, profondément littéraire, parce que je trouve que les écrivains nord-américains ou sud-américains, américains globalement, américains, nord ou sud-américains, travaillent beaucoup plus, sont beaucoup plus créatifs, sont beaucoup plus dans la recherche pour renouveler le genre romanesque. Je pense que l'un des problèmes de la littérature en France, c'est que 80% de la production, c'est ce que je vous disais ça tout à l'heure, 80% de la production, c'est Comment dire ? Au niveau de la forme, c'est du Balzac ou du post-Balzac. Et c'est valable aussi, c'est ça que je reproche à Houellebecq, c'est que, voilà, bon, à part La carte et le territoire où il s'amuse un peu, c'est quand même, voilà, c'est quand même ultra classique comme, comme forme. Alors que, justement, on l'a comparé parfois avec Bret Easton Ellis, mais Bret Easton Ellis, c'est tout autre chose. Bret Easton Ellis, on ne sait jamais vraiment si on peut faire confiance à ses narrateurs, on ne sait jamais à quel niveau de réalité il est. À la fin d'American Psycho, on ne sait pas si le personnage, il est fou, il a tout inventé ou pas. Voilà. Bon, ça, je trouve ça très intéressant, disons, cette problématique qui est la problématique qui m'intéresse sur les rapports entre réalité et fiction. Ça, je trouve ça passionnant, quoi. En France, il n'y a pas tellement ça. Les Sud-Américains avec le réalisme magique, les Nord-Américains un roman comme Glamorama de Bret Easton Ellis, c'est complètement fou. On sait jamais ce qui se passe et on comprend rien à ce qui se passe et en même temps, c'est haletant. Comme un roman policier. Je trouve ça vraiment, littérairement, je trouve ça passionnant. Et en France, je généralise, il y a des romanciers français qui sont très intéressants, mais je trouve que c'est pas les plus connus, malheureusement.
Mais moi, je pense par exemple qu'un auteur comme Jonathan Franzen peut se lire comme un auteur russe du 19e siècle.
Absolument. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un très grand romancier, mais un très grand romancier classique, un très grand romancier balzacien, et donc qui ne renouvelle pas assez les formes romanesques pour que je le mette à l'égal de Bret Easton Ellis ou d'auteurs de Roberto Bolaño, pour citer un sud-américain, par exemple.
Je voudrais parler maintenant de ton autre livre, de Rien ne se passe comme prévu. Tu es passé presque un an dans la campagne de Françoise Hollande. Et je me demande comment tu lis ce livre aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a eu, en général, une certaine déception sur Hollande comme président.
Déception que je partage, et donc je lis mon livre comme un document historique. Et comment dire, comme un dossier à charge contre le président Hollande, si tu veux, parce que mon livre, c'est l'histoire du candidat Hollande. Et donc, la déception est à la mesure de l'écart entre le candidat et le président. C'est-à-dire, indépendamment même de toute considération de bord politique, il y a un stade où je sais bien qu'il y a ce ministre de l'Intérieur français qui disait les promesses politiques n'engagent que ceux qui les écoutent, qui les croient. Mais je pense quand même qu'il y a des limites. Ceux qui ont voté pour Sarkozy en 2007 ont pu être déçus. Mais globalement, Sarkozy l'avait dit en tant que candidat. Je vais faire un ministère de l'immigration et de l'identité nationale et de l'immigration, qui était quelque chose quand même de très justement lourd, un petit peu avec des connotations très proche de l'extrême droite, un petit peu pétainiste. Bon, mais il l'avait dit dans son programme, il l'a fait. Il avait dit, je vais instaurer un bouclier fiscal pour que les plus riches ne payent pas trop d'impôts. Moi, à titre personnel, je trouve ça profondément injuste. Mais voilà, il l'avait dit, il l'a fait. Donc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait son programme. François Hollande, c'est-à-dire lui, il a fait vraiment, vraiment le contraire. Et donc, il y a un stade, comment dire, de reniement des promesses qui porte un nom. À ce stade-là, ça s'appelle de la trahison. Et donc, voilà, moi, je trouve que François Hollande, candidat de gauche, il a trahi la gauche.
Et c'est une déception pour la gauche, en général.
Bah ouais.
Pour la gauche française.
Ouais, ouais, voilà. Et en plus, c'est-à-dire, donc, c'est une déception, c'est une trahison. Je trouve que, moralement, il y a vraiment une trahison. Et ensuite, politiquement, je trouve que c'est un calcul qui est stupide, parce que, de toute façon, les gens de droite le détestent encore et le détesteront toujours. Donc, il déçoit ses électeurs de gauche sans vraiment attirer les électeurs de droite. Et donc, je pense que ça donnera quelque chose de pas très bon en 2017, sachant qu'en fait, ceci dit, tout est possible puisque c'est mon titre. Absolument tout peut se passer. Le fait que Marine Le Pen soit si haut dans les sondages, que la droite soit très divisée, fait que tout est possible. Moi, je pense qu'il sera éliminé au premier tour, mais Je ne pense pas que ce soit complètement impossible qu'il soit réélu.
Mais y a
dans ce cas-là, il aura eu raison. C'est-à-dire l'histoire lui donnera raison. Mais
il y a, je pense, un risque assez grand de revoir Sarkozy ou même de voir le FN remonter, et surtout
là,
Marine
c'est
Le Pen.
En France, c'est très ouvert. Là, enfin, depuis que je m'intéresse à la politique, je ne me souviens pas que des élections aient été aussi ouvertes, sachant qu'en plus... 2 ans en politique, c'est très très long et il peut se passer vraiment des tas de choses. Là, les événements, les attentats en France ont fait que Hollande a repris, et c'est vrai que, bon, voilà, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'a pas trop mal géré la crise. Hollande a repris 20 points dans les sondages alors qu'il était à 13%. Bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais, on ne sait pas.
Il y a un moment très intéressant dans ton livre qui décrit très bien, et Hollande, bon, tout le livre le décrit très bien, cette admiration pour la figure de Mitterrand, de vouloir faire ses gestes, parler comme Mitterrand. Mais aussi, tu parles d'une ironie, et tu le décris comme un homme ironique. Est-ce que tu penses que cette ironie, c'est ce qui n'a pas permis d'être un bon président, un bon gouverneur?
Ah non, non, non. C'est... non, disons que moi, je pense que l'ironie est une... comment dire, l'ironie témoigne d'un détachement, d'une distance par rapport aux événements qui est, je pense, une qualité. Mais en même temps, le discours politique, à partir du moment où un discours politique s'adresse au plus grand nombre, l'ironie, c'est quelque chose de très difficile à manier. Voilà, par exemple, les nazis qui étaient capables de... Bon, j'en reviens par habitude au nazisme. Les nazis qui étaient capables de faire soulever des foules étaient incapables d'ironie, à mon avis. Mais je pense que quand on parle à une personne, on peut faire preuve d'une ironie très, très élaborée. À 10 personnes, ça devient plus compliqué. À 1000 personnes... à plus de 1000 personnes, ça devient quasiment impossible. Et on le voit bien, moi je le vois bien sur Twitter par exemple, dans les réseaux sociaux, des déclarations qui seraient immédiatement perçues comme de l'ironie par vos amis, deviennent prises au premier degré par des gens qui vous connaissent pas, justement parce qu'ils vous connaissent pas. Et donc on voit bien que quand on parle à plus de 100 personnes, c'est très très difficile de faire de l'ironie. Donc, comment dire, cette ironie dont lui est capable, témoigner d'une distance qui est intéressante, qui est importante, parce qu'en politique, c'est bien d'avoir de la distance, c'est bien de pas d'être comment dire, froid, d'avoir une forme de froideur face aux événements et de pas réagir de façon trop émotionnelle. Mais en même temps, dans ses discours, il pouvait pas tellement l'utiliser parce qu'elle aurait pas été, comprise. Une bonne rhétorique politique peut pas tellement utiliser l'ironie, je pense.
Okay. Tu as écrit 2 livres et tu viens de me raconter que tu viens de terminer un 3e livre sur Roland Barthes. Et ce sont 3 sujets qui sont réels, c'est la réalité, mais qui sont traités sur la façon d'un roman, de la littérature. Pourquoi tu trouves dans la réalité tellement d'éléments littéraires?
Parce que ces éléments ils sont là, souvent la réalité dépasse la fiction, c'est un autre proverbe français mais universel, je crois. Ceci dit, justement, là dans mon prochain livre, le parti pris sera différent. Mon prochain livre tournera toujours autour des rapports entre réalité et fiction, mais là vraiment sera, l'histoire sera envisagée sous l'angle inverse, vraiment sera envisagée sous l'angle de la fiction et de comment est-ce qu'on peut prendre des éléments historiques et non plus, comme j'ai fait dans HHHH, essayer vraiment de les restituer dans toute leur, avec le plus de fidélité possible, dans toute leur véracité, mais au contraire, essayer à partir de ces éléments de les tordre et d'imaginer quelque chose de complètement fictionnel. Si tu veux, pour te donner un exemple, sur le modèle de Inglourious Bastard, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Tarantino, où il imagine une fable sur le nazisme tellement imaginaire qu'il finit par tuer Hitler dans un cinéma en France en 1943. Et donc ça, moi, je trouvais ça fascinant, cette espèce de jeu Voilà, ça m'intéresse d'un point de vue littéraire, de jeu avec ce qui est traditionnellement le roman historique. Qu'est-ce que c'est le roman historique traditionnellement ? Le roman historique, c'est insérer de la fiction dans la grande histoire. Mais, donc, en imaginant des épisodes fictifs, mais avec cette règle non écrite qui est qu'on ne va pas bouleverser quand même les grands ensembles. C'est-à-dire que normalement, par exemple, dans les Trois Mousquetaires, on part d'un fait divers réel, dans lequel on imagine D'Artagnan, etc., avec la reine, etc. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'événements qui puissent dire au lecteur « Ah mais non, mais là, c'est de la fiction, c'est-à-dire qu'on ne va pas tuer Louis XIII, par exemple. On ne va pas tuer... voilà. » Sauf que le Tarantino, lui, il décide que « Bah si, pourquoi pas, finalement. Hein » Si on peut changer un petit peu l'histoire, mais peut-être qu'on peut changer un peu plus. Et finalement, lui, il se dit « Mais... jusqu'où le curseur peut aller ?» Et lui, en fait, il monte le curseur à 10. Donc ça, je trouve ça fascinant.
Et ça fonctionne très bien dans la logique de son récit.
Ça fonctionne très bien. Et puis, à l'arrivée, ça fait se poser encore plus... Ça fait se poser des questions aux spectateurs qui, à l'arrivée, à la sortie du film, se dit... Ah bah, enfin, va se poser des questions sur ce que c'est que la fiction, sur ce que c'est que l'histoire et le jeu complexe entre les deux. C'est pour ça que, ouais, voilà, moi, j'étais fasciné par ce film et donc voilà, moi dans mon prochain roman par exemple, je vous le dis en avant-première, je me suis posé la question, ça se passe dans les années 80, je me suis demandé si j'allais pas tuer Mitterrand par exemple 25 ans avant sa mort, donc finalement je l'ai pas fait, donc je dévoile rien, mais voilà, vous voyez l'état d'esprit que j'avais, qui était l'état d'esprit opposé à celui de HHHH, où là j'étais névrotiquement attaché au respect de la vérité historique. Là, au contraire, je me suis dit, ok, bah, liberté totale, et on va voir ce que ça donne.
Okay. Je voudrais terminer pour parler sur Charlie Hebdo. Et j'ai lu il y a quelques jours un article sur Libération de Philippe Lançon. C'était un des dessinateurs. C'est un des dessinateurs.
C'est pas un dessinateur, c'est un critique littéraire. C'est un journaliste et critique littéraire. Et l'un des meilleurs en France, en plus. Enfin, l'un des seuls que j'aime.
Et il racontait que juste avant que le tueur arrive, il parlait justement du roman de Michel Houellebecq, et quelqu'un se demandait qu'a fait la France pour éviter de créer ces monstres furieux. Qu'est-ce que tu penses que la France a fait ou n'a pas fait pour créer des monstres furieux?
Bon, c'est si j'avais la réponse, hein, je pourrais. Enfin, bon, ce serait. J'en ferais profiter la France. Je sais pas exactement. En plus, enfin, moi, j'ai été prof de lycée et prof de banlieue, et donc, enfin, je ressens ça un petit peu aussi comme un échec personnel, même si les terroristes n'ont pas été mes élèves. Mais je vois bien que j'ai pas su endiguer quelque chose. Moi, ce que je regrette en France et d'une manière générale en Europe, dans le monde, mais spécialement en France, parce qu'en France, on a une tradition quand même voltairienne comment dire. Historiquement, la France a su tenir un discours très dur face au visage le plus noir, le plus détestable des religions. Et je trouve que un petit peu gagné par le politiquement correct mondial, on a cédé quand même par rapport à ça. Par rapport au fait que, voilà, en France, on a toujours pu critiquer les religions. Et que petit à petit, quand même, c'est devenu de plus en plus difficile. Et Charlie Hebdo, c'était un dernier bastion qui nous rappelait que, ben oui, on a le droit de critiquer une religion. La religion est une idéologie comme une autre. Que l'idée même de dire ça c'est sacré, ça c'est sacré, ça c'est sacré, c'est une idée dangereuse qui, à mon avis, contient les germes du fascisme. Parce que le fascisme, c'est tu n'as pas le droit de dire ça sous peine de mort. Bon, ce que font là les islamistes, c'est. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de dessiner le prophète sous peine de mort. Mais pourquoi ? Non. Enfin, je veux dire, la démocratie, c'est discuter. La démocratie, c'est... OK, il y a des règles, il y a certaines choses, on n'a pas le droit de les faire, mais il faut qu'on nous explique ça, pourquoi. On ne peut pas dire juste parce que c'est sacré, parce que c'est comme ça. Ça, c'est du dogmatisme, c'est du fascisme. Donc, voilà. Et je trouve qu'aux États-Unis, mais aussi en France, progressivement, on est un petit peu trop dans une logique de « ouais, ok, non, mais c'est de la religion, on va pas les embêter, etc. » Il y a une espèce de comment dire, c'est ce que Salman Rushdie a dit de façon très belle, après les attentats de Charlie Hebdo, il a dit trop souvent maintenant, le respect de la religion est devenu le nom de code pour dire la peur de la religion. Bon, voilà. Et je crois que, bah, justement, Charlie Hebdo, il ne voulait pas être dans cette logique-là. Et ils ont montré que, bah, oui, il y a une forme de terrorisme de la religion qui est, que moi, je trouve, en tant que voilà, Français, voltairien, issu d'un pays qui s'est battu contre ce terrorisme-là, contre ce fanatisme-là. Voltaire, il a écrit un livre entier sur un jeune homme de 19 ans qui a été exécuté parce qu'il n'a pas enlevé son chapeau au passage d'une procession, d'une procession religieuse. Bon, ben... et voilà, et c'est-à-dire le... Comment dire, la séparation de l'Église et de l'État en 1905 en France, la laïcité en France, ça a été le résultat de ce combat contre une forme d'intolérance, de fanatisme religieux, qui est issu de quelque chose dont on peut vraiment être fier en France, qui s'appelle la philosophie des Lumières, qui est issue de Voltaire, de Diderot, de Rousseau, de Montesquieu, et cette tradition-là, ben là, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus que Il n'y avait plus assez de... Elle est devenue minoritaire en France. Il n'y avait plus qu'un petit noyau dont Charlie Hebdo était l'emblème, mais qui n'était plus assez fort pour résister. Voilà. Il y a un rapport de force, là, qui est défavorable à la laïcité. Je trouve ça extrêmement dangereux. Et dangereux, voilà. Et moi, j'étais très content de voir ce pape, là, le pape François, qui est génial, qui est tellement progressiste, qui est tellement... etc. Mais le pape, il a quand même dit... Ok, c'est très mal, mais il a quand même dit, mais quand même, si tu insultes ma mère, il faut t'attendre à recevoir un coup de poing. Ça, je trouve ça fou. Parce que d'abord, enfin, je trouve ça fou rhétoriquement, parce que il y a une espèce d'association d'idées qui fait que, ah bon, Mahomet, c'est comme ta mère, et qu'un coup de poing, c'est comme une Kalachnikov, donc rhétoriquement, je trouve ça ignoble. Et puis ensuite, là, moralement, ça veut dire que, quand même, il justifie. Ouais. Il dit, bon, voilà, hein, c'est un peu... Il y avait provocation. OK, il y a eu meurtre, mais il y a eu provocation. Bon, voilà.
Et il n'est pas le seul à avoir justifié.
Ouais, bon, voilà. Mais donc, le fait que ce soit le pape, c'est particulièrement embêtant. Et surtout, ce pape qui avait l'air tellement progressiste, quoi. Moi, j'ai été très déçu.
OK, Laurent, je pense que le temps est fini. Merci beaucoup. Je te remercie.
Merci à toi. Merci,
merci
Philippe,
à tous. Merci à tous.
Merci à la traductrice, là, j'entendais sa voix dans les machines. Je sais que c'est très difficile la traduction simultanée. Merci.
Et Laurent va firmar libros para quien quiera. Gracias.
Merci.